Résonance, le rendez-vous des expériences qui nous embarquent ailleurs sur Tropique FM 90.0. Dans le cadre de notre rubrique « Aujourd'hui pour demain », nous vous proposons une série d'entretiens avec des compositeurs d'aujourd'hui. Des entretiens au cours desquels nous vous convions, chers auditeurs et chères auditrices, à pénétrer dans l'univers d'hommes et de femmes qui ont choisi de transmettre leurs émotions, leurs regards, à travers la musique et l'écriture musicale. Lors de ces échanges, nous découvrons, au fil de ces conversations, leurs intentions et leurs conceptions artistiques. Ils évoquent ce que tout cela signifie pour eux ou pour elles, des conséquences sur leur vie et sur leur quête artistique. Bonjour, aujourd'hui cet entretien est consacré au compositeur Jean-René Combe-Damien. Ce n'est que très tard, après des études universitaires en musicologie à la Sorbonne, que vous avez choisi de vous consacrer à l'étude de la composition. Tout d'abord autodidacte, puis dans un cadre plus officiel au Conservatoire européen de musique de Paris, auprès du compositeur Patrice Sciortino, puis auprès d'un important compositeur français, Antoine Tisney. Vous êtes pianiste également, alors comment ce choix de vous exprimer à travers la musique s'est-il développé ?
J'arrive pas à savoir à quel moment ça a commencé en fin de compte. Parce que j'ai fait de la musique très tôt, parce que j'étais dans une famille où on décidait de nous mettre à la musique. Je suis seul, donc c'est un peu difficile de dire nous. Mais on décidait de mettre tout le monde à la musique systématiquement, comme à l'école, quoi. Et il se trouve que ça fonctionnait très vite, ça fonctionnait facilement. J'ai l'impression que j'entendais les choses à peu près correctement. Donc on a décidé, un peu à ma place à cette époque-là, de me faire faire de la musique d'une manière très, 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 très amateur, quoi. Mmh. Des cours privés de piano. Mmh. Puis ce moment-là, c'est tari, on va dire. C'est que j'ai passé un moment où la musique dite classique était, pas mon centre d'intérêt, on va résumer ça comme ça. Ouais. Et où j'ai décidé de faire un autre type de musique, un petit peu plus vivante, entre guillemets. Parce que,
c'est-à-dire, pas, alors
c'était à l'époque de Moustaki, guitare folk, tout ça. Donc c'était un petit peu ça, un petit groupe avec des gens qui faisaient des chansons.
L'envie de changer d'air musicalement, alors.
Oui, et puis de voir autre chose pour peut-être mieux revenir à mes premières amours, comme on dit. Mais je pense que c'était un chemin... Alors, nécessaire, j'en sais rien, sûrement. Choisi, j'en sais rien, parce qu'en fait j'ai l'impression que tout se décide un petit peu à votre place, ce genre de choses. Mais c'était bien, j'ai passé de bons moments, j'ai écrit un nombre incalculable de chansons qui, Dieu merci, ne sont pas diffusées.
Peut-être un jour.
C'est passé à la trappe tout ça. Et c'est très bien comme ça, parce que des gens qui font ça très bien, c'est un autre domaine, donc on peut pas, suivre plusieurs lapins à la fois, quoi. Et donc après, je me souviens plus bien comment ça s'est... Je crois que c'était à l'occasion de l'achat d'un piano de neuf. Mes parents ont dû vouloir m'acheter un piano, je ne sais pas pourquoi. Je ne sais plus pourquoi tout ça. Et puis, en échange, j'avais promis de m'y remettre un peu, quoi, pour dire, voilà... Parce que l'objectif du piano, ce n'était pas de me remettre au classique du tout. J'avais envie, mais pas forcément...
Mais pas forcément au travers de ce style-là particulièrement.
Ouais, voilà, c'est ça. Et le fait d'acheter ce piano, ça a dû déclencher la chose, quoi. C'est une sorte de catalyseur, comme on dit en chimie, vous savez. En fin de compte, moi, le piano, c'était mon objectif au départ, mais sans avoir vraiment une idée de carrière ou autre. C'est de jouer du piano.
Mais du coup, au travers des chansons, il y avait quand même l'idée d'écrire des choses, quoi.
Toujours.
Donc il y avait quand même le propos d'écriture qui était présent, l'envie de mettre en forme des choses.
Bah, écriture, à ce moment-là, je ne peux pas vraiment appeler ça comme
peut-être
ça.
Peut-être pas d'écriture, mais...
C'était pas terrible, quand même. Hein. Mais de toute façon, ce désir d'inventer des choses, puis de créer plus tard, ça a toujours été... j'ai dû naître avec, hein. J'ai pas dû avoir trop le choix pour ça. Parce que c'est aussi loin que je me souvienne, j'ai toujours eu envie d'inventer des choses. J'inventais des sketchs pour mes copains. Après, quand j'ai eu comme on dit tout, pour tout le monde, la première guitare, c'était des chansons, et puis après, c'était avec le piano. Et puis, bon, en fait, l'achat de ce piano, pour revenir à cette anecdote-là, parce que c'est vraiment très anecdotique, hein. C'est pas passionnant, mais pour moi, c'était quand même le déclencheur.
Ouais, c'est comme ça, le déclencheur.
C'est comme ça qui m'a ramené à une musique, disons, qui était plus proche de celle que j'avais apprise étant petit. Mmh. Et voilà, l'anecdote est amusante. Moi, j'aime bien me raconter ça, parce que ça me fait plaisir, ça fait un peu petite histoire de la musique personnelle, tu vois. Et, j'ai dû passer un concours de piano. C'est le concours de piano Claude Kahn, je crois. C'est comme tous ces concours, il y a par degré 200 à 300 gamins qui viennent jouer leurs morceaux, c'est palpitant. Et c'est vrai que je suis monté sur scène pour jouer un mouvement de sonate de Beethoven, je crois, et en descendant de l'estrade, j'avais décidé d'être musicien, quoi. C'est bizarre. Mmh. Mmh. Mais c'est une réalité, c'est sûr. Et dû me griser en jouant sur scène devant 400 personnes.
Quoi. Et du coup, voilà, après, les choses se sont enclenchées jusqu'à rentrer à ce conservatoire européen, en tout cas.
Pas tout de suite.
Pas tout de suite.
Parce que j'étais au lycée à ce moment-là, je crois bien. Donc il a fallu finir ça. Et puis, c'était pour moi, en tout cas, difficile de faire les deux en même temps. Donc c'est après.
Donc les études de piano et puis petit à petit la pratique de cet instrument amenant peut-être encore un petit peu plus l'idée d'aller un petit peu plus loin dans ce que pouvait être l'invention et la mise en forme de celle-ci.
Bah, curieusement, quand j'ai touché au piano, j'ai retouché au piano, le côté création existait toujours, mais ce n'était pas encore bien formé. Je ne voyais pas l'objectif complet de cette affaire-là. Mmh. Et je m'étais mis dans le crâne d'être pianiste. Mmh. Hein. Mmh. Et puis, je mets du temps à comprendre que
c'est une voie. Passé ailleurs, peut-être.
Ah oui, je pensais pouvoir faire les deux, moi, faire du piano et puis créer en même temps. Mmh. Donc, je pense que je n'étais pas taillé pour, donc, enfin, en tout cas, pas fait pour le piano, comme je l'imaginais à l'époque, c'est-à-dire monter sur une scène, jouer les classiques, me faire applaudir. Donc, j'avais cette idée-là au départ. Mmh. Et puis, la réalité m'a bien très vite remise à ma place. Et c'est comme ça vraiment que je me suis décidé. Je ne peux pas dire que j'ai décidé. C'est parti de moi, ça s'affirme.
Et donc, du coup, la rencontre avec Surtino, c'était quelque chose déjà d'important aussi dans ce parcours, dans ce rapport à l'écriture, à la mise en forme.
Oui, c'était important. C'était un peu un hasard aussi, comme beaucoup de choses dans ce que j'ai fait, mais avec le recul. Hein. Mm-hmm. C'est vrai que. J'ai rencontré Patrice Curtino, c'est un peu dur de faire entendre ça, mais ça aurait pu être quelqu'un d'autre à la limite. C'était dans le cadre du conservatoire européen, ça faisait 2 ans que j'étais au piano auprès d'un prof, et il y a eu la création de cette classe de composition, enfin dite de composition, dont Curtino s'occupait. Et je connaissais Curtino par deux, trois rencontres, mais très informelles. J'étais pas, ça de toute façon il n'entendra pas je pense, c'est très bien, mais j'étais pas spontanément attiré par sa musique, mais attiré par le personnage et sa culture, son intelligence, le côté pétillant de son regard, parce que là c'est un bonhomme qui a vraiment une vie intérieure profonde, c'est sûr. Mmh. Après elle se manifeste d'une manière qui ne me convient pas complètement, mais on ne peut pas être d'accord avec tout le monde. Hein. Mmh. Et j'ai trouvé que, justement, n'étant pas tout à fait du même milieu musical, du même monde musical, je crois qu'on pouvait je pouvais apprendre beaucoup de choses.
Apprendre beaucoup de choses, ouais.
Parce que si j'allais vers quelqu'un qui était plus de mes sensations, on aurait, je pense que j'aurais appris moins vite, moins de choses.
Alors, on retrouve cette complicité qui va s'exprimer avec un autre compositeur qui, lui, avait une place importante aussi dans le paysage français, de la musique d'aujourd'hui en tout cas, et une rencontre qui, même si elle n'a peut-être pas duré très longtemps, était très importante avec Antoine Disney, par exemple, qui, lui, a été aussi un complice, je dirais, beaucoup plus intime, si on peut dire, employer ce terme, par rapport à ce travail, à cette réflexion aussi sur l'écriture.
Oui, Antoine Disney était important, mais important surtout humainement, en fait. Musicalement, oui, mais je me suis aperçu il n'y a pas très longtemps, pensant à lui, et aux rencontres, somme toute, il n'y en a pas eu tant que ça. Enfin, autour de la musique, il n'y en a pas eu tant que ça. Je m'aperçois que dans ces rencontres-là, on n'a pas parlé essentiellement musique, technique, choses comme ça. Ce qui aurait peut-être été mieux pour moi, j'en sais rien. Mais on a beaucoup parlé de peinture, même de vie quotidienne, de sensations, de foi aussi, puisque c'était un homme qui était très, très préoccupé par ça, et comme il se trouvait que j'étais aussi, que je suis encore, donc c'était le moyen de... Mais en fait, dans toutes ces conversations-là, si je n'ai pas appris beaucoup en musique, directement, concrètement, je m'aperçois que ça a quand même façonné mon parcours musical intérieur, on va dire, sans être pompeux, mais c'est vrai que ça a changé beaucoup de choses. Ouais. Mm.
Ce dernier, il parlait de vous et de votre musique avec ce propos-là. Écrite avec l'oreille d'un musicien, la musique de Jean-René Comte-Damien s'impose par le ton juste et direct de son expression. Elle vise à faire partager avec l'auditeur la vision d'un rêve intérieur, celui de l'artiste, l'instant où l'acte créateur rejoint le sens du sacré.
Ben oui, mais c'est pas facile. Vous voulez me faire parler sur des choses qui me concernent directement, c'est...
Non, je trouve que pu être là pour aller vous plus disiez loin, les sensations, en tout cas, sur ce quoi se basait un petit peu cette intimité, voilà, il l'a réécrit, voilà, peut-être synthétisé, mais en tout cas, je trouve que c'est en adéquation avec ce que vous dépeignez à l'instant, où on sent qu'il a senti quand même ce qui était votre fondement, et les endroits peut-être où vous vous rejoignez, justement... Au niveau de la pensée et de la conception.
Oui, Disney, c'était quelqu'un de... Enfin, le problème, c'est que comme compositeur, il avait aussi une casquette d'inspecteur de la musique. Et il était, sans être ni désagréable avec lui, ni désagréable avec les gens qu'il a inspectés, parce qu'il était assez juste, on va dire.
Mmh. Alors, peut-être avec une certaine rigueur aussi dans
certaine
la manière
rigueur,
de...
Ouais, juste, et puis une certaine conscience de ce que doit être la musique avec un grand M, quoi. Donc on plaisante pas trop avec ça. Et lui, alors après, sur le résultat, c'est autre chose, mais sur l'attitude qu'on doit avoir vis-à-vis de ce qu'on veut écrire, je pense que c'est important. Et ça a révélé ce que je devais penser intuitivement et ne pas être capable de mettre des mots dessus. Et cette rencontre avec lui était importante, surtout humainement, mais je crois que c'est... Enfin, en ce qui me concerne, c'est surtout ça que je privilégie. Je ne vais pas aller travailler avec quelqu'un avec lequel ça va être un pugilat permanent ou sur lequel on ne sera jamais d'accord. Parce que je pense que dans ce domaine-là, il faut un minimum de confiance. Enfin, à la limite, même si on n'est pas tout à fait d'accord, au moins qu'on puisse se parler. Donc les gens que je rencontre, c'est en priorité des gens qui répondent à ça.
Thank you.
Selon Thomas, une œuvre de 1991 pour un ensemble féminin amateur que nous venons d'entendre aujourd'hui.
Oui, ça date de 90 en réalité. Le 91, c'est le
l'enregistrement,
je crois que c'est ça, me semble. Oui, sur 89, même 89 peut-être, le début de l'écriture, parce que le temps que ça se fasse, le temps que l'ensemble travaille... Et que ça se donne en concert, puis après l'enregistrement. Bon, ouais, c'est vieux, hein.
Ça commence à être vieux. Oui, c'est le cœur de femme résonance contemporaine.
Dirigé par Alain Goudard, n'est-ce pas ?
Voilà.
Mmh. Oui, c'était une première expérience. Alors, je trouvais intéressant d'entendre ça, parce que, quelque part, je m'aperçois en même temps que le stage qui vient de se terminer à Bourg autour de l'écriture musicale, ne s'adressant pas forcément à des professionnels, je trouvais important qu'on puisse faire comprendre aux gens qui écoutent qu'on peut faire de la musique de la même manière qu'on peut faire de la peinture, en fin de compte, ou de la poésie. Il y a des tas de gens qui écrivent en France, hein, presque. Mmh. On prétend même, comme une boutade, que tous les Français sont écrivains. C'est vrai, c'est un pays où la littérature compte beaucoup. La musique peut-être un peu moins, parce que c'est une affaire de culture ou une affaire de timidité vis-à-vis... de cet art-là, mais c'est pour montrer que des amateurs peuvent avoir la même exigence que les professionnels, mmh. qu'on peut obtenir un but difficile à atteindre, qu'on croit difficile à atteindre au départ, mais quand c'est entre de bonnes mains, en général, ça aboutit bien. Donc c'est pas tout à fait la même exigence, on peut pas réclamer tout à fait la même chose, mais on s'aperçoit que le cœur y est et que quelquefois ça permet de... Mmh. de transcender un petit peu l'affaire, quoi, et ça c'est bien, et je pense que c'est important de faire comprendre ça aux gens, qu'ils peuvent faire de la musique, que tous les moyens sont bons pour en faire, en réalité. Et pas forcément du rock ou du rap, hein, j'ai rien contre tout ça, bien sûr, mais c'est pour que les timides qui écriraient de la musique sur un coin de table, dans le fond de leur chambre, sans le montrer, parce qu'ils n'osent pas, viennent rejoindre ce genre de démarche-là, parce que à cette époque-là, moi, j'avais les yeux, les oreilles grandes ouvertes de voir ce travail-là, parce que la partition n'est pas évidente et ce qui en est donné est de qualité, quoi. Et du coup, la pièce existe encore un peu grâce à eux.
Tout à fait. Lors d'une interview dans laquelle vous évoquiez votre parcours jusqu'à aujourd'hui, vous employez le terme de parcours du combattant. Alors, c'est un combat d'être compositeur aujourd'hui ?
Il ne faut pas écrire, hein. Alors ça, c'est un conseil que je donne à tout le monde. N'écrivez rien, ne dites rien, parce qu'un jour ou l'autre, ça se retourne contre vous. Hein. C'est clair, ça.
Mais c'est intéressant, en tout cas, de soulever l'idée de combat. Enfin, ça va en parallèle avec peut-être au début de notre entretien, mais quand on se lance dans une aventure qui est celle de la composition et de comment elle se déroule dans le cours d'une vie, vous n'êtes pas le seul à soulever aussi la difficulté que peut rencontrer... le compositeur est celui qui peut se lancer dans cette aventure, mais à vos yeux, quand même, ça se justifie le terme de combat ou que c'est un parcours quand même difficile.
J'ai dû sans doute te dire ce genre de choses à la suite d'une anecdote et d'une réaction, forcément, parce que c'est un peu enfoncer des portes ouvertes que de dire des choses comme ça ou de les écrire, parce que c'est vrai que c'est pas évident, mais... Je pense qu'un type qui veut faire du sport de haut niveau pourra dire la même chose. Quelqu'un qui veut être, même pas dans le domaine de l'art ou de la représentation, s'il veut être un grand médecin, à mon avis, ça ne doit pas être simple. Hein. Donc, je redire ce que j'ai dit, mais en fait, en même temps, la réaction, ça devait être parce que, n'ayant pas suivi une formation institutionnelle, je ne dis pas que ça ouvre toutes les portes, parce que ça doit être très difficile aussi, mais c'est vrai que ne pas y mettre les pieds, ne pas en sortir, ça ferme pas les portes, mais c'est du coup les portes sont un peu plus compliquées à ouvrir, parce que il faut vraiment montrer qu'on a des choses à dire. Alors même si on vous dit ouais, tout le monde a des choses à dire, après il faut pouvoir, surtout en musique, il faut quand même avoir des interprètes qui vous acceptent. Ça c'est pas évident, c'est surtout dans ce sens là que
dans ce sens là.
Oui. Puis bon, anecdote pour anecdote, j'étais allé rencontrer un éditeur parisien, cet éditeur m'avait dit, écoutez, voilà, c'était une rencontre que j'avais fait grâce à Antoine Tisney, qui avait fait des pieds et des mains pour m'obtenir ce rendez-vous. Donc ça avait été vraiment très difficile. Donc j'avais été merveilleusement reçu. Ce monsieur était au bout d'une table qui devait faire 25 mètres. Donc je le voyais tout petit, lui donc ne me voyait presque pas. Et il me dit, il m'explique en gros que est-ce que vous êtes joué à la radio, donc sous-entendu Radio France. Je lui ai dit, ben non, moi j'arrive, hein, je j'ai pas cette chance-là. Et alors, puis la conversation se poursuit. Mais j'avais retenu ça, donc j'ai demandé à voir, et puis c'est vrai qu'encore une fois, Disney m'avait permis d'avoir cette entrevue avec une personne de la radio qui est connue encore pendant ce milieu-là, et cette personne, dans la conversation, m'a demandé si j'étais édité. Alors je lui ai dit, ben non, parce que votre confrère éditeur m'a renvoyé à vous, parce qu'il fallait que pour être édité, il fallait que je sois joué à la radio. Alors, c'est un petit peu le cercle vicieux. Il fallait que je sois édité pour être joué à la radio, il fallait que je sois joué à la radio pour être édité. Donc je servais de balle entre ces deux institutions parisiennes, c'était très bien. Mais donc s'il y avait combat, c'était ça, parce qu'il faut percer un peu la cuirasse de gens qui n'ont pas forcément confiance en vous dès le départ. Quoi.
Oui, et puis du coup, ça met peut-être en exergue, ça c'est un autre propos que j'ai relevé aussi dans certains de vos articles, que le plus difficile pour un créateur... et a fortiori pour un compositeur, est de conserver une réelle indépendance, une autorité sur sa création, suffisamment importante pour tenter de se donner une personnalité, un style, une signature. Du coup, ça vient aussi un petit peu en écho de ce que vous soulevez, c'est-à-dire que du coup, certaines manières de concevoir, d'écrire, la manifestation aussi d'une personnalité avec... Comme elle a envie de le mettre en forme, ne rentre pas forcément en adéquation peut-être avec tous les circuits qui existent, quand vous évoquiez Radio France ou quand on évoque l'édition. Il y a une espèce de norme peut-être qui...
Je sais pas, c'est facile de dire ça quand on n'a pas mis les pieds dans une grande institution, parce que... Faut pas, non. Je regrette pas, ça s'est fait comme ça, donc la question se pose même pas dans ces termes-là, même si pendant un moment, ça a pu me manquer pour les rencontres que ça occasionne. Ça permet forcément d'apprendre des choses plus vite, c'est sûr, de faire des rencontres qui peuvent être fructueuses pour la suite, pour sa musique. Et puis, mais non, je pense que il y a pas de règle. Il y a des gens qui ont une personnalité musicale en fréquentant ces endroits-là. Je pense pas que ce soit plus difficile. Après, quand on subit des influences, de toute façon, qu'on soit dedans ou dehors, on les subira toujours. Et sans dire que c'est une preuve de faiblesse, mais en même temps, après tout, les influences sont très... Non, je crois qu'on peut fréquenter ces endroits-là, avoir une personnalité, on peut ne pas les fréquenter. Mais un exemple d'aujourd'hui, c'est une personne qui n'a pas fréquenté, je crois. Alors, vous me corrigerez si je me trompe, je crois que c'est le monsieur le plus incontournable d'aujourd'hui, du Sapin, hein, qui n'a pas fréquenté ces maisons-là. Ça n'empêche pas d'être compositeur. Je ne parle pas de carrière, mais d'être compositeur. Après...
Donc ça revient bien à ce que vous souleviez, c'est-à-dire que si on arrive au travers de la musique à affirmer sa personnalité, son style, sa signature entre guillemets, les choses aussi peuvent s'installer, parce qu'effectivement il y a une vraie entité artistique qui est là, qui est présente et qui petit à petit prend sa place.
C'est vrai, je n'avais pas répondu à la question du coup. Mais j'en sais rien, oui, pour le style qu'on peut avoir, je ne sais pas, hein, c'est pas évident. C'est pas évident de trouver son
chemin, ça...
Oui, ça ne doit pas être évident de trouver exactement ce qu'on veut dire. Ça peut évoluer. Rares sont les compositeurs quand même qui ont une personnalité identifiable dès le départ. Ravel était comme ça. Même sur les œuvres les moins satisfaisantes, d'après lui, on sent que c'est quand même du Ravel. Il y a des gens, c'était un peu plus long, il y a des gens qui sont passés de... pas du coq à l'âne, mais de choses très différentes.
Très différentes aussi.
Penderecki, je crois, est passé de choses très, très, très avant-garde à des choses plus... plus facile d'abord, je sais pas, c'est compliqué l'histoire du style, hein. Enfin d'autres, je sais pas.
Thank you. Ganzen großen Welt blieb ohne Sloy, das sie mal erzählt.
Mein Kind, du sollst sehen, einst, wenn du erwachst, ist der Friede gekommen.
L'extrait que nous venons d'entendre, très émouvant aussi, mais aussi dans une... cette émotion, je pense, elle vient aussi de fait de cette commande un peu particulière de Musique en voûte, donc en 2003. Les qu'associaient le Quatuor Manfred, Pierre-Yves Pruvot, mais c'était avant tout un hommage au compositeur de Theresienstadt.
Theresienstadt.
Voilà, de cette camp. Aussi, comment cette commande, comment ce texte aussi s'est imposé ce...
Alors, d'abord, dire un mot peut-être de Terezín en tchèque, c'est en République tchèque, je crois.
C'est en République tchèque, oui.
Terezín est une ville en République tchèque qui était un camp, elle toute seule.
Elle toute seule, ouais.
Dans lequel on y mettait les artistes, aussi bien comédiens, chanteurs, musiciens, peintres, on mettait tout ça... Dans une sorte de ville fermée et qui ça devait servir pour le pouvoir allemand de l'époque de vitrine auprès de la Croix-Rouge, des instances qui voulaient voir comment fonctionnait un camp à cette époque-là. Ces gens-là se sont bien gardés de montrer la réalité des choses, mais ils montraient donc une ville dans laquelle il y avait un théâtre, dans lequel on montait des opéras, dans lequel il y avait des compositeurs qui écrivaient de la musique et dans des conditions pas toujours très faciles, mais enfin, il y avait une sorte de vie encore, là. En général, assez bref, puisque ces gens-là étaient en transit, hein, comme dans la plupart des camps. Ils allaient finir leur vie comme vous savez. Bon, donc ça c'est le... Je trouve ça le raffinement dans l'horreur, moi. Je trouve que c'est encore pire que les camps eux-mêmes, parce que c'est tendre du bout de la main l'illusion qu'on peut encore vivre normalement, alors que c'est évidemment pas le cas. Donc ça, c'est un peu lourd à porter. Et puis quand on m'a demandé de participer à ce concert, c'était la conclusion d'une partie d'œuvres de musiciens dont on a retrouvé les partitions là-bas. Donc il y a des choses qui sont vraiment intéressantes. Elles ont un poids particulier parce qu'évidemment, elles auraient été écrites face à la mer ou face à la montagne. Ça aurait été une belle musique, mais le contexte fait qu'elles ont un poids particulier. Elles traînent quelque chose derrière elles, ces musiques. Donc moi, je devais arriver en conclusion de ça, et le texte m'a été... pas imposé, parce que les choses se sont pas dites comme ça, mais on me les a proposées en tout cas.
On les a proposées.
J'aurais pu refuser, faire autre chose. Mais j'ai choisi de les utiliser quand même, parce que cette femme, Ilse Weber, qui est morte dans ce camp-là, je crois. Et je trouve ça incroyable, parce que son mari était juif, pas elle, hein, était allemande, je crois. Enfin, si je me trompe pas. Et elle a voulu absolument suivre son mari dans les camps, c'est-à-dire en sachant très bien ce qui allait lui arriver. Donc c'est d'autant plus fort. Et puis, évidemment, au niveau musical, c'est l'expression, on peut pas dire que ce soit la franche gaieté, c'est sûr, mais il y a forcément une émotion qui se dégage des textes, où elle met en scène des vieilles femmes, où elle décrit en fait ce qui se passe dans le camp, la réalité. Et dans les textes, il y a beaucoup de relations entre les vieilles femmes qui ploient sous leur douleur, et puis un enfant, parce que je crois qu'elle a laissé... Elle a réussi à cacher deux de ses enfants pour éviter qu'ils soient pris avec la famille. Donc il y a ce déchirement physique entre l'enfant et la mère qu'elle était. Et je trouve que les textes poétiquement sont pas fantastiques. Enfin, je les ai lus en allemand, je peux pas me dire si c'est bien en allemand ou pas. Mais en français, dans la traduction, c'est pas d'une forte... Je pensais qu'on va la retenir comme poète, hein, comme témoignage.
Mais comme témoin, en tout cas.
Ouais. C'est très très impressionnant, et c'est vrai qu'on parle beaucoup de l'enfant, et les membres du quatuor sont prêtés gentiment à ce... Parce que il y a un texte dit par moment, et ce sont les membres du quatuor qui le disent. Et le premier violon prend la voix d'un enfant un peu plus tard dans la partition, et j'étais un peu inquiet parce que... concert sérieux, puis tout d'un coup cette femme qui prend une voix d'enfant, c'est presque un jeu, et j'avais peur que ça attire des rires. En fait non, c'est encore plus dramatique que dramatique.
C'est force le côté dramatique,
très impressionnant. Ça m'a beaucoup marqué, ce truc.
C'est une belle rencontre avec Manfred.
Oui.
Je parle, on entendra un petit peu plus tard dans l'émission aussi Pierre-Yves Pruvot, qui est aussi un chanteur qui voilà, avec lequel vous vous êtes retrouvé à plusieurs reprises.
Oui, on se suit.
Dans l'écriture, là aussi il y a des filiations, si en même temps.
Moi je pense que quand on doit rencontrer les gens, on les rencontre, donc c'est sûr qu'on doit passer à côté de plein d'autres, mais quand on rencontre quelqu'un et que la vie continue avec lui, ça veut dire, ou avec lui, avec elle, ou avec d'autres personnes, peu importe, ça veut dire qu'on a pendant ce temps-là des choses en commun. Après, ça veut pas dire que ça va durer du temps éternel, j'en sais rien, je le souhaite, moi je suis du genre... fidélité béton, on va dire, hein. Donc moi, une fois que c'est donné, donc après je sais pas ce que ça donnera, j'en sais rien, mais c'est vrai que c'est artistiquement, on a des... je sais même pas quoi dire, parce qu'on l'a jamais formulé, je crois que...
Quelquefois il y a aussi, je sais que vous aimez les citations, et peut-être là aussi il y a des points d'influence, des points d'accroche qui se font, et notamment je crois que Maurice Ohana fait partie des compositeurs avec lesquels vous trouvez des points d'accroche, et notamment à travers une citation de Maurice Ohana qui est la suivante: les grandes leçons de musique ne sont pas les musiciens qui me les ont, ce ne sont pas les musiciens qui me les ont données. Je les ai reçues concrètement de la mer, du vent, de la pluie sur les arbres et de la lumière, ou encore de la contemplation de certains paysages que je recherche parce qu'ils ont l'air d'appartenir plus à la création du monde qu'à des contrées civilisées. Ça veut dire aussi que peut-être En prenant en regard aussi cette citation de Maurice Ohanak, les éléments aussi autres, là on vient de parler des relations humaines, mais que bien sûr le regard qu'on peut porter sur la nature, l'influence de celle-ci, c'est des éléments qui pour vous sont porteurs à la fois peut-être dans la nourriture du moment de ce qui va peut-être germer, de la musique qui va naître. C'est une part importante dans votre démarche de création ?
Je ne sais pas bien. Je sais pas bien répondre à ça, c'est pas évident. Quand Ohana parle de musique, on entend par le mot musique, c'est-à-dire ce qu'on a à l'intérieur de nous. Hein. Je parle pas de tout ce qui est le moyen de la faire entendre. Hein. C'est le côté technique, qu'est-ce que je choisis comme instrument, comment on écrit pour tel instrument, à qui je le fais. Donc, on parle de musique, non, avec un grand thème, tant pis hein, pour le.
Bien sûr.
Ouais, c'est sûr, mais je dissocie pas, je ne peux pas dissocier les relations humaines et l'homme derrière la nature. Il n'y a pas l'homme et la nature.
Bien sûr.
On va pas rentrer dans des thèses écolo à dessous, hein, parce que c'est pas l'objet, mais on n'est pas, ça nous appartient pas. On est juste spectateur. On fait partie en même temps. Alors les problèmes qu'on voit aujourd'hui, on en est responsable, donc ça veut dire qu'on est quand même avec elle, quelque part. Ça inspire, mais musicalement, je suis pas sûr que ça... J'ai pas envie de décrire, si je vois la mer, j'ai pas envie de la décrire. Moi, j'ai une émotion par rapport à ça, et ça se manifeste autrement en musique, parce que je saurais pas faire, de toute façon.
Il y a un autre personnage aussi, un autre compositeur français qui a beaucoup, qui vous impressionne aussi, c'est Henri Dutilleux.
Mais il est impressionnant comme bonhomme, comme homme, il est impressionnant. Il est d'une droiture exemplaire. Enfin, j'espère que les gens qui ne l'aiment pas me contrediront pas. Mais je veux pas donner la sensation que je dissocie la création et la personne qui fait la chose, mais ça quand même, ça part de là pour moi beaucoup quand même. J'aurais du mal à aimer vraiment sa musique si le bonhomme s'avérait épouvantable, quoi. Alors je sais pas si c'est bien, mais c'est comme ça, je peux pas faire autrement. Je peux avoir une affection débordante pour un musicien qui fait une musique que je déteste, par exemple, parce que le problème n'est pas là. Voilà. On fait ce qu'on veut. Donc Dutilleux fait la musique qu'il veut, j'aime pas forcément tout, je m'incline devant le bonhomme parce que il est, pour l'avoir rencontré plusieurs fois, et dans le cadre du concours qui porte son nom, je sais comment il travaille pour ce concours, et je vois l'honnêteté, l'intégrité, quoi.
En plus, vous avez été un des lauréats aussi de
ce
concours.
Oui, mais ça, c'est autre chose. Mais ça fait plaisir, mais c'est autre chose. Mais c'est vrai que le bonhomme est impressionnant, oui, c'est vrai.
Sollst nicht auf steinig keine Gassen gehen, hast du mich nicht vergessen, meine Kind, hast du mich nicht vergessen, 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 hast du mich nicht vergessen, meine Kind, meine Kind.
Ich möchte nach Hause.
Mein Kind.
Ist der Friede gekommen?
La voix, le mot, le rapport au texte, la poésie, la littérature, c'est quelque chose qui entre aussi beaucoup dans votre démarche d'écriture. Vous êtes même à un certain moment donné l'auteur de vos propres textes. Vous pouvez nous en dire un petit peu quelques mots, ce rapport un petit peu que vous entretenez justement avec le mot en tant que musique, mais aussi dans sa qualité poétique, on l'évoquait déjà un petit peu tout à l'heure.
Oui, je disais tout à l'heure qu'en France tout le monde écrivait, je fais partie du lot, j'écris aussi. Là, ça reste dans mes tiroirs parce que j'ai vraiment pas de certitude encore. Déjà, est-ce que j'en ai en musique, j'en suis pas non plus sûr. C'est encore en train de se faire, mais dans l'écriture, c'est plus compliqué. Alors, j'étais amené à utiliser mes textes à moi dans une partition parce que, pour une raison toute bête. J'ai le souvenir, il y a quelques années, d'avoir participé à un colloque autour du basson auquel Résonance Contemporaine participait, et j'avais choisi un texte de... Alors, le nom m'échappe sur le moment. Mince. Je crois que c'est Supervielle, il me semble. Donc j'avais écrit la pièce, moi, tout naïvement, en toute innocence, j'avais écrit ma pièce, et puis après je me suis dit, mais au fait, Supervielle, il faut peut-être que je demande l'autorisation.
Oui, voilà, tu demandes une autorisation.
Voilà, donc j'ai demandé l'autorisation à l'éditeur de M. Supervielle, et puis j'ai une réponse, pas négative, mais pas vraiment positive non plus. Il fallait que je dépose un dossier enfin démesuré par rapport à ces 6 lignes, quoi. J'ai expliqué à la personne que j'avais au bout du fil que si j'avais choisi ce texte-là, c'était vraiment parce qu'il me semblait beau d'abord, et puis que j'avais envie de mettre ma musique dessus, tout simplement. Il n'y avait pas, je ne voyais pas en quoi ce grand dossier devait être utile pour un oui ou pour un non, quoi. Donc ça a traîné quand même quelques semaines, 5-6 semaines avant que j'ai cette première réponse. La même chose pour une deuxième réponse pour le dossier, qui était évasive encore. Mais le problème, c'est que les dates de répétition, la date du concert approchait, il fallait que je sache si je pouvais ou pas, quoi. Et comme ça a tardé, j'ai fini par renoncer au texte de Supervielle, tant pis pour moi. Mais la pièce était créée, programmée plutôt, tout était fait, donc il a fallu...
Il a fallu vous lancer dans l'écriture.
Voilà, il a fallu me lancer, en tout cas dans ce domaine-là. Donc que je réalise un texte qui colle en plus aux inflexions musicales que j'avais écrites pour l'autre texte, qui était donc... Alors c'est vrai que les deux textes se ressemblent un peu, j'espère que les ayants droit de Supervielle ne mettront pas le nez dessus, parce que... Il est assez proche au niveau de l'ambiance quand même, hein, on ne va pas dire le contraire. Mais bon, voilà, c'est ce qui fait que dans la plupart des cas, si je peux éviter ce genre de problème, je les évite.
Donc ça veut dire que vous écrivez beaucoup, en tout cas quand vous avez le besoin d'un texte,
alors, de toute façon,
c'est vous qui le mettez
façon,
en forme.
Ouais. De toute façon, comme j'écris, et que c'est un besoin, de toute façon depuis toujours.
Non, hein, aussi depuis toujours. Ouais.
Quand je ne peux pas écrire de musique, ou lorsque dans le domaine musical les choses ne sont pas comme je voudrais, j'ai cette chance immense de... Alors, je ne dis pas que c'est de la qualité, ce n'est pas le problème, hein, mais au moins j'ai la chance de me... De créer quelque chose dans un autre domaine. Alors ça, c'est important pour moi. Je ne veux pas dire que c'est parallèle, mais de plus en plus. Hein, je m'aperçois, j'ai la sensation d'avoir fait énormément de progrès en musique parce que j'ai écrit.
Et donc vraiment l'adéquation des deux sources d'écriture pour vous sont essentielles.
Oui, parce que, et du coup, depuis qu'au niveau musical, je commence à peu voir ce que j'attends de moi, l'écriture a changé aussi. Il y a plus de... Enfin, c'est très compliqué tout ça, mais c'est vrai que c'est important. La dernière pièce qui a été créée à Kang, là, c'est un texte délibérément que j'ai fait au préalable et que j'ai mis en musique après. Alors c'est pour être aussi tranquille, très sincèrement, c'est pour être tranquille avec les ayants droit et les familles des artistes qui ont créé des choses. Alors je ne nie pas que ces gens-là existent, mais il s'introduit des raisons, parfois mercantiles en plus. Je ne parle pas d'argent, mais parce que ce n'est pas le lieu, mais c'est vrai que je ne vois pas ce que viennent faire ces gens-là dedans, en fin de compte. Une œuvre d'art, c'est une œuvre d'art, on n'y touche pas, alors j'ai du mal à comprendre qu'un étranger puisse s'immiscer dans l'affaire. Donc je préfère écrire moi-même, alors ça vaut ce que ça vaut. Alors ce qui m'embête, c'est une anecdote, mais il y a beaucoup de gens qui viennent me voir en me parlant des textes que j'utilise. Alors c'est un peu tracassant dans la mesure où vous êtes compositeur et qu'on vient vous voir pour vos textes, quoi. C'est ça qui me fait souci aujourd'hui.
Alors là, nous allons entendre justement une de vos pièces. On va retrouver Pierre-Yves Pruvot, ce jeune baryton, cet excellent baryton, accompagné au piano par Charles Bouisset.
Très grand pianiste.
Également, oui, c'est vraiment un duo merveilleux en tout cas, et qui poursuit cette collaboration depuis plusieurs années, et qui révèle justement de nombreuses facettes de la... dirons-nous de la musique de chambre et vocale contemporaine d'aujourd'hui. Et là, l'œuvre que vous avez... Là, c'est le texte aussi que vous avez écrit, qui a pour titre...
Là, le texte que l'on va entendre, si je ne me trompe pas, n'est pas de moi. Je crois que c'est un écrivain qui s'appelle Beckett, il me semble.
Donc là, on est dans l'exceptionnalité.
Non, pas vraiment. Oui, bien sûr, mais bon, je ne suis pas quand même... pas tout, avoir tous les honneurs, quand même, pour pas exagérer. Hein. Non, le texte, j'adore Beckett, hein, j'aime bien cet univers, j'aime bien cette manière de rendre musical des mots, de rendre musical des situations, et le texte est imposé, c'est extrait de son tout petit recueil de poésie.
Thank you. cimetière. Je voudrais que mon amour meure. Qu'il pleuve sur le cimetière. Et les ruelles où je vais. Pleurant celle qui.
Nous voici arrivés au terme de cet entretien. Merci Jean-René Comte-Damien d'avoir bien voulu participer justement à celui-ci avec cette simplicité et puis ce rapport direct aussi dans la manière de répondre en tout cas à mes questions. Donc c'est avec plaisir d'ailleurs que nous vous retrouverons peut-être en tout cas au travers de différentes musiques dans le cadre de notre émission Aujourd'hui pour Demain. Et chers auditeurs et auditrices, je vous dis à bientôt.